C'est mon devoir de vous donner beaucoup de mauvaises nouvelles ce soir. Beaucoup de mauvaises nouvelles parce que le traité TAFTA, le traité entre les États-Unis et l'Europe, est un très mauvais traité et c'est plein de très mauvaises nouvelles pour tout le monde, pour tous les citoyens. Mais je dis, d'entrée de jeu, c'est un dossier sur lequel on peut gagner. On peut réellement gagner, et vous allez voir pourquoi, j'espère, parce que d'abord, je voudrais demander combien de personnes ici n'ont pas encore entendu parler du TAFTA ou du TTIP, ça a plusieurs noms, ça s'appelle le TTIP pour les Américains, ça s'appelle le TAFTA en France, on trouvait ça plus facile. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore entendu parler de ce traité? Je suis heureuse de voir qu'il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas entendu parler parce que ça veut dire que je peux éventuellement faire des convertis dans l'esprit missionnaire. Parce que si vous en avez tous entendu parler, je suppose que c'est que vous êtes contre. Oui? Est-ce qu'il reste des gens qui sont pour? N'hésitez pas à l'avouer. Parce que nous essayons d'appliquer la stratégie Dracula, c'est-à-dire quand on expose le vampire à la lumière du jour, le vampire ne supporte pas et il se ratatine et puis il rentre dans son cercueil et il meurt. Et ça marche très bien, parce que ce Dracula-là, c'est tellement... il a des crocs tellement longs, des canines, oui, merci, que il est vraiment un peu grotesque. Et on voit tout de suite, dès qu'on explique les mécanismes, mais je vais supposer que vous ne connaissez pas tous les mécanismes. Je vais décortiquer un peu ce qui est contenu dans ce traité. Et puis là, je crois que je vais prendre un micro que je n'ai pas besoin d'entendre, de tenir, parce que ça fait des hauts et des bas, des sauts. Alors, long chapitre là-dedans, dans ce bouquin qui est exposé à l'extérieur, sur le TAFTA, parce que c'est ça un peu l'actualité. Mais l'idée du livre dans son ensemble, c'est d'essayer de montrer que les entreprises que j'appelle les transnationales et pas les multinationales, pour des raisons que je peux expliquer, sont maintenant sur une offensive de type tout à fait historique. C'est nouveau depuis 10-15 ans, mais maintenant ça devient de plus en plus visible que ces entreprises veulent vraiment saisir la politique et diriger, mais sans gouverner. Ils ont des gens pour ça. Ils n'ont pas besoin de saisir les gouvernements eux-mêmes, et d'ailleurs ce serait très stupide de leur part parce que ce serait beaucoup trop visible. Mais que la démarche, telle qu'on l'examine, vraiment mène dans tous les domaines à cette conclusion-là, que maintenant nous allons de plus en plus vers un État qui est, pas seulement un État, mais une planète, un monde qui est gouverné par les très grandes entreprises. Et ceci au détriment de tous les autres, y compris les PME-PMI. Y compris ceux qui ne sont pas implantés dans plusieurs pays à la fois et qui n'ont pas les milliards derrière eux qui leur permettent d'intervenir dans la politique. Alors ici, je parle bien sûr des lobbies. Tout le monde connaît les lobbies. C'est classique, ça existe depuis le début du 19e siècle au moins et peut-être avant. Et peut-être qu'il y avait déjà des lobbies à Athènes qui étaient 500 ans avant Jésus-Christ et qui étaient organisés peut-être à peu près de la même façon. Ça, c'est vieux comme le monde, qu'il y a des intérêts et ses intérêts essaient de se faire entendre des politiques. Mais maintenant, nous allons bien au-delà de cela, même si je le décris, parce que c'est important et c'est intéressant de savoir des choses sur ces mécanismes-là, qui le fait, comment ils le font, quelles sont leurs techniques. Alors, j'ai un petit catéchisme pour le parfait petit lobbyiste qui vous permettrait, peut-être avec un peu de pratique, de prendre ce métier demain matin si vous le voulez. Mais il faudrait lire avant, il faut lire le catéchisme pour savoir quelles sont les techniques que vous pouvez utiliser. Et puis, quelque chose qui est plus nouveau, qui est le collectif d'industrie dans une même branche qui s'organise pour faire entendre la voix de toute une industrie, que ce soit la pharmaceutique, que ce soit les véhicules, que ce soit les boissons alcoolisées, le tabac, les produits chimiques, les semences comme Monsanto, et qui se retrouvent, ces entreprises qui construisent des choses qui s'appellent jamais des lobbies, ça s'appelle des conseils, des fondations, ça a des noms bien innocents et bien allants, qui sont des noms tout à fait acceptables dans la bonne société, mais qui sont des entreprises de lobbying avec une très très grande force et qui sont maintenant de plus en plus intégrées dans les structures du gouvernement. Je donne un exemple en particulier que je vous raconterai maintenant parce que je l'ai pris en partie à José Bové, que tout le monde connaît en France et qui a eu une expérience, et si j'ai pris le récit qu'il fait dans son propre bouquin « Hold up à Bruxelles », c'est parce qu'il faut vraiment avoir une connexion intime avec le Parlement européen et les mécanismes de Bruxelles pour savoir ce qui se passe et avoir le pouvoir d'interpeller, en l'occurrence, une agence de réglementation. Dans ce cas, il s'agissait de l'Agence pour la sécurité alimentaire, dit EFSA, de son sigle en anglais. Et ce qu'il montre, c'est que la personne qui était à la tête de cette agence régulatrice, qui était censée être neutre, était là pour s'assurer de la sécurité alimentaire des produits et pour les personnes, les consommateurs de toute l'Europe, était en même temps membre du conseil d'administration et très très proche donc de quelque chose qui s'appelle l'ILSI. Vous n'avez jamais entendu parler de l'ILSI, je pense, parce que moi j'avais jamais entendu parler avant de commencer mes recherches pour ce livre, mais c'est un truc qui s'appelle le International Life Sciences Institute, l'Institut pour les sciences de la vie internationale. Ça a l'air utile, bien innocent et utile. Qu'est-ce que c'est? C'est plus de 70 transnationales qui se sont unies pour essayer de promouvoir les OGM, l'usage de produits, s'il le faut, chimiques, dangereux dans la nourriture, les semences qui ne peuvent pas se reproduire, introduire dans le régime des Européens comme si de rien n'était, des éléments qui sont pas très bons pour la santé, comme des excès de sucre ou des excès de... Oui, enfin, et c'est pas seulement le sucre, parce que maintenant c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est le fructose corn syrup, ce sont des sirops de sucre. Mais bon, Je vous donne juste un exemple là pour vous montrer que indiquer en tout cas que le degré d'infiltration va jusqu'aux instances censées être purement techniques. Et chaque fois maintenant que j'entends les mots, mais c'est purement technique, ne vous inquiétez pas, je me dis il y a anguille sous roche et qu'il faut au contraire s'inquiéter.